VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
15h à Conakry, 17h à Bujumbura. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. On commence par la politique ici aux États-Unis. Transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump. Le prochain chef de l'exécutif américain a dénoncé hier soir ce qu'il a appelé une grave fraude électorale à la présidentielle du 8 novembre. Donald Trump affirme sans en apporter la preuve que des millions de gens ont voté illégalement au scrutin qu'il a remporté face à la démocrate Hillary Clinton. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Dans un contexte de transition du pouvoir à la Maison-Blanche, une polémique a enflé tout au long du week-end. Une ancienne candidate indépendante à la présidentielle, l'écologiste Jill Stein, a décidé de réclamer des recomptages de voix dans les États du Wisconsin, de Pennsylvanie et du Michigan. Ces trois États clés sont tombés dans l'escarcelle de Donald Trump et le camp Clinton a annoncé samedi qu'il participerait au nouveau décompte dans le Wisconsin, ce qui a fait sortir de ses gonds le bouillonnant milliardaire. En plus d'une victoire écrasante au sein du collège électoral, j'ai gagné le vote populaire, si vous déduisez les millions de gens qui ont voté illégalement, a accusé dans un tweet rageur le 45e président des États-Unis qui remplacera le 20 janvier le sortant Barack Obama à la Maison-Blanche. Ni lui ni ses conseillers n'ont apporté la moindre preuve de ces allégations et les observateurs électoraux le 8 novembre n'ont jamais fait état de fraude. Rappelons que le républicain a largement gagné la présidentielle américaine en empochant au scrutin universel indirect 290 grands électeurs contre 232 à sa rivale démocrate. En revanche, en termes de suffrage populaire, Hillary Clinton a recueilli 2,2 millions de voix de plus que Donald Trump.
À Cuba, les Cubains ont entamé aujourd'hui à La Havane une semaine de commémoration en hommage à Fidel Castro. À la tête de la révolution cubaine pendant près de 50 ans, il est décédé vendredi dernier à l'âge de 90 ans. La dépouille du commandant suprême a été incinérée samedi et ses cendres seront transportées en cortège cette semaine à Santiago de Cuba pour l'inhumation dimanche dans cette ville où Fidel Castro avait lancé la révolution en 1959. Par contre, ici aux États-Unis, la mort de Fidel Castro continue de donner lieu à des manifestations de joie, notamment à Miami, en Floride. Les anticastristes lui reprochent d'avoir été un dictateur impitoyable à l'égard des opposants. Le président élu Donald Trump a pour la première fois ce lundi menacé de mettre fin au rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba si La Havane ne donne pas plus de contrepartie en matière de droits de l'homme ou d'ouverture économique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Afrique du Sud, au moins trois ministres du gouvernement sud-africain ont appelé à la démission du président Jacob Zuma, embourbé dans une série de scandales de corruption qui suscitent de plus en plus de critiques dans son propre camp, selon des médias locaux. Depuis samedi, les instances dirigeantes de l'ANC, le parti au pouvoir, sont réunies à huis clos dans un hôtel de Pretoria pour discuter de l'avenir de leur président et chef de l'État, Jacob Zuma, dont le second mandat ne doit s'achever qu'en 2019. Initialement prévu pour s'achever hier, cette réunion a été prolongée jusqu'à ce lundi. En RDC, la présidentielle prévue cette année ne pourra pas se tenir avant avril 2018. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le ministre congolais des Affaires étrangères en marge du sommet de la francophonie à Antananarivo, à Madagascar. Raymond Tshibanda a par ailleurs estimé qu'il ne pouvait pas exclure qu'il y ait quelques tentatives de violence de la part de l'opposition autour du 20 décembre, date de la fin du dernier mandat du président Joseph Kabila, selon la constitution congolaise. Ouganda, le bilan des combats de ce week-end dans l'ouest du pays entre les forces de police et des miliciens alliés à un monarque local atteint maintenant 62 morts. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un porte-parole des forces de sécurité. Un bilan initial de 55 tués avait été communiqué dimanche. Timothée Donangmaï.
Un porte-parole de la police ougandaise a fait état de 14 policiers et 41 militants tués lorsque la police a pris d'assaut le palais du roi Charles Wesley Mumbere dans la ville de Kasese. La garde du souverain a opposé une farouche résistance, entraînant des combats dans plusieurs quartiers de la ville. Elle ferait partie d'une milice liée à un mouvement prônant la création d'une république de Yira sur la zone frontalière entre l'ouest de l'Ouganda et une partie du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Le souverain qui a été arrêté sera inculpé d'incitation à la violence et emmené à Kampala pour s'expliquer sur son rôle dans les violences de dimanche.
Et pour terminer, en Côte d'Ivoire, reprise aujourd'hui à Abidjan du procès pour crimes contre l'humanité de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, avec la présence de ses avocats, mais en l'absence de Madame Gbagbo qui refuse de comparaître. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.